L'invité régional avec les radios chrétiennes des Pays de la Loire.
Une plongée au cœur des églises mancelles du XXe siècle, c'est ce que propose Marie Ferret, chercheuse à l'inventaire du patrimoine pour la région Pays de la Loire. Elle est l'une des auteurs de l'ouvrage « Architecture sacrée, Le Mans au XXe siècle ». Bonjour Marie.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Résumez-nous en quelques mots, expliquez-nous pour commencer l'objectif de cet ouvrage que vous avez coécrit.
Donc en effet, c'est un ouvrage qui a été coécrit avec Philippe Gros, qui est paru en décembre dernier et qui avait pour volonté de faire lumière sur une thématique particulière qui nous semblait incontournable pour la ville du Mans, qui est celle des constructions cultuelles au XXe siècle, qui sont particulièrement nombreuses au Mans.
Comment est-ce que vous avez eu l'idée de faire cet ouvrage, de vous pencher particulièrement sur cette thématique-là ?
Alors disons qu'il y a eu deux étapes. La première, c'est que depuis 2018, il y a sur la ville du Mans une étude d'inventaire du patrimoine qui est menée. Donc ça, c'est une étude générale où on s'intéresse à tout type de bâti, pas du tout exclusivement les églises. Mais il se trouve qu'en cours d'étude, j'ai été en contact donc avec Philippe Gros qui menait à bien une campagne de labellisation des édifices du XXe siècle et en particulier des édifices de culte du XXe siècle à l'échelle de la région. Et on a commencé à travailler ensemble, à discuter ensemble de la possibilité de mettre en valeur ce type de patrimoine.
Alors quelles ont été vos méthodes de travail pour réussir à sortir ce livre en décembre dernier ?
Alors nous, on procède un peu toujours de la même manière. On a une méthode qui est très stricte à l'inventaire, mais qui porte ses fruits, qui veut que d'abord, on commence toujours par un travail de terrain. À travers donc ce travail de terrain, on va mettre en avant certaines particularités, retenir un certain nombre d'édifices qui nous semblent vraiment intéressants et incontournables. Et à partir de là, on va commencer un travail en archives. Ensuite, on travaille de la manière suivante, c'est-à-dire qu'on reconstitue l'histoire du site et on tente de le replacer dans une échelle plus générale. Localement, les abords. Pourquoi on a construit une église à cet endroit-là ? Pourquoi et comment ? De quelle manière les paroissiens ou les communautés environnantes se sont investis dans la construction du site, etc.
Alors Marie, quelles sont les églises en détail que vous avez pu étudier ici sur la ville du Mans ?
Alors il y en a un certain nombre. On a à peu près 13 édifices catholiques, sachant qu'on a dans ce livre pas que des édifices catholiques, c'est important quand même de le rappeler, il y a une synagogue et deux mosquées et des chapelles de sœurs et deux chapelles d'établissements scolaires. Donc pour les églises paroissiales, nous en avons retenu 7 qui nous paraissaient vraiment essentielles.
Alors donnez-nous quelques exemples de ces édifices justement que vous avez pu étudier en détail.
Je pourrais prendre l'exemple d'une qui est peut-être assez peu connue par les habitants car très discrète, Saint-Bernard des Sablons, qui est une église très basse parce qu'elle se développe exclusivement en rez-de-chaussée. Elle appartient à un courant qu'on appelle l'enfouissement, courant architectural catholique des années 60-70, où justement on cesse de montrer l'église comme étant un repère visuel dans le paysage urbain, mais plutôt elle s'atténue, elle s'enfouit. Et donc c'est vrai que Saint-Bernard des Sablons, on peut passer devant sans se rendre vraiment compte que c'est une église. Et pourtant elle est tout à fait intéressante parce qu'elle est faite en série. On a pu en compter aujourd'hui 15, entre Chartres, Le Mans, Rennes, Saint-Nazaire, des églises exactement pareilles. Et ça fait toute la force en fait de ce patrimoine qui du coup est non seulement assez populaire et sériel. Alors là, c'est le summum, c'est ça, exactement.
Alors, ces églises, ce patrimoine sacré que vous avez pu étudier, Marie, qu'est-ce que vous en retirez ? Disons, quelles sont un petit peu les avancées historiques, les découvertes que vous avez pu faire, vous et également les autres auteurs, à travers ce travail ?
Alors, on s'est rendu compte assez rapidement que même si un certain nombre d'édifices étaient connus dans les grandes lignes, on connaissait l'architecte, la date de construction, on avait quand même une perte mémorielle pour un certain nombre de sites. Je pense par exemple à l'église Saint-Liboire, qui est une église tout à fait fabuleuse, en béton brut absolument splendide, dont on ne connaît pas l'architecte véritable. Les sources sont tout à fait contradictoires et ça nous rappelle à quel point, même avec 40-50 ans de décalage, on perd parfois la mémoire des sites. Et dans d'autres cas, comme par exemple pour la chapelle des Sœurs de la Solitude, sur la butte de Gazonfier, il a été possible de mettre le doigt sur un fonds d'archives tout à fait inédit qui était conservé aux archives départementales du Pas-de-Calais, archives de l'architecte en charge donc de la chapelle, Joseph Philippe, et qui nous a permis d'avoir des renseignements complémentaires sur cet édifice qui est relativement peu connu des Manceaux car rarement ouvert au public.
Alors Marie, sur tous ces édifices que vous avez pu étudier sur Le Mans, quelles sont les particularités, les singularités que vous avez relevées? Est-ce qu'il y a quelque chose de typique à la Sarthe, si on peut dire, sur les édifices sacrés à cette époque?
Alors, typique à la Sarthe, ça va être difficile à dire, parce qu'en fait, des édifices de ce type-là, on en trouve comment? Et ça, c'est très symptomatique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, les édifices cultuels du XXe siècle se situent dans les villes. Mais il est évident qu'en fait, la construction de ce type d'édifice est en lien avec une urbanisation des territoires. Et donc, une arrivée massive de population à un endroit donné. À ce titre, Le Mans correspond un petit peu à ce que l'on trouve partout en France. Je dirais que peut-être la spécificité du Mans, c'est le nombre particulièrement important d'églises pour une ville qui est relativement réduite, si l'on prend par exemple l'exemple du diocèse de Lyon. Alors que finalement, on va trouver un nombre quasiment similaire d'églises. Et ça, c'est tout à fait exceptionnel.
On sait à quoi ça tient, cette surpopulation d'églises, si on peut dire, dans la ville?
Ça tient à plusieurs choses, mais entre autres au fait que Le Mans est une ville extrêmement étendue. On retrouve la volonté par l'Église catholique d'assurer une pastorale de proximité.
Alors, ces églises du XXe siècle, on peut dire qu'elles sont parfois un peu mal aimées. On entend beaucoup que voilà, ce sont des grands pavés en béton qui auraient moins de charme esthétique que des églises gothiques ou que sais-je, plus anciennes. Pourtant, il y a un véritable enjeu patrimonial derrière.
Tout à fait. C'est aussi pour ça que nous avons décidé de cibler cette thématique et d'en faire un ouvrage. Parce qu'il nous semblait important que ce patrimoine-là soit connu, reconnu, valorisé et protégé. Déjà, le béton a mauvaise presse. Évidemment, c'est des édifices qui ont été construits rapidement, dans un souci d'économie. Et aujourd'hui, il est vrai qu'il y a des soucis structurels qui font qu'on trouve des dégradations certaines de certains édifices. Donc ça n'aide pas. Pourtant, ils sont vraiment symptomatiques d'une histoire, mais aussi d'une manière de construire. Et ça, c'est tout à fait intéressant parce que les matériaux utilisés, vous avez évoqué le béton, sont incontournables à la compréhension de l'architecture du XXe siècle. Pourquoi valoriser ces édifices ? Je pense qu'il est tout à fait intéressant de mener, et c'est un enjeu aujourd'hui, une réflexion sur la réhabilitation des sites plutôt que de leur destruction et de la reconstruction. D'abord parce que ça permet de conserver traces, et ensuite parce que c'est un enjeu actuel des villes, que de se réapproprier des sites qui peuvent être parfois un petit peu oubliés.
Alors une dernière question, Marie. Vous expliquiez il y a quelques instants que les matériaux qui ont servi à construire ces édifices nous disent quelque chose de l'architecture, de l'époque. Mais ces édifices en eux-mêmes, ils sont un petit peu les témoins de leur temps, les témoins à différents moments du XXe siècle. Qu'est-ce qu'ils traduisent comme grandes idées de l'époque? On sait que construire un bâtiment, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Il y a un message derrière.
Alors déjà, il y a la question de la rapidité qui transpire à travers ces édifices. Il faut construire vite parce qu'on a une véritable attente des communautés religieuses et que, en plus, généralement, on obtient des subventions et que les subventions doivent être dépensées relativement rapidement. Ensuite, on a un certain nombre d'éléments aussi qui nous permettent de montrer qu'il y a une vraie réflexion autour du matériau béton. On l'utilise certes pour des questions économiques, mais on l'utilise aussi pour des questions esthétiques. Et notamment, on a pu mettre la main sur un certain nombre d'échanges au Christ Sauveur entre l'architecte et un bureau d'études parisien, où il est demandé au bureau d'études d'effectuer un nombre important de relevés, d'analyses, etc., d'un certain nombre de bétons, de structures d'acier, pour permettre au Christ Sauveur de revêtir justement cette forme si particulière qu'elle a en coquille Saint-Jacques arrondie, où il n'y a pas du tout de colonnes qui retiennent cette voûte. Et ça, c'est une prouesse architecturale parce que c'est finalement du béton portré.
Alors Marie, tous ces édifices, bien sûr, ils ne se sont pas montés tout seuls, il y a des architectes derrière. C'est un point que vous abordez également dans l'ouvrage?
Tout à fait, parce que ce que les recherches ont révélé, c'est que la majorité des architectes qui travaillent au Mans sont des architectes locaux. Architectes qui, certes, vont construire des édifices cultuels, mais pas que. On retrouve notamment l'architecte de la synagogue, qui s'appelle Jean Guy, dans les grands collectifs des Maillets, ou à Allonne. Donc, il ne se spécialise pas dans un type d'architecture, mais il participe à la construction de la ville moderne du Mans. En revanche, dans trois cas, on a pu identifier des architectes qui n'étaient pas manceaux et qui sont véritablement à la renommée internationale. Je pense par exemple à Pierre Vago, à Sainte-Thérèse. Et c'est très intéressant de voir son implication aussi bien au niveau du logement, au niveau des grands ensembles, mais aussi au niveau des édifices de culte.
Merci beaucoup Marie d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes chercheuse à l'inventaire du patrimoine pour la région Pays de la Loire et vous avez coécrit l'ouvrage Architecture sacrée, Le Mans au XXe siècle. À bientôt.
À très bientôt, merci.